Bonjour et bienvenue au LA Club, le podcast BD bimensuel qui boit jaune. Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, l'épisode 41, qui en soi est presque le 51e épisode qu'on enregistre, mais en fait non.
Putain, c'est bon ouais, ça. En une phrase, ça a déjà paumé les trois gars auditeurs, dis donc.
Voilà, bon, en fait, on a juste calculé rapidement que tout podcast confondu, numéro 0, hors série, épisode mini, on a déjà enregistré 50 émissions, ce qui est pas mal en soi, hein, un an, presque deux ans bientôt.
C'est le début de la célébrité.
Un programme hyper chargé de la mort aujourd'hui, on va vous parler de chair et d'écume, de super gods, c'est pour ça que je m'appelle Giovanni, un enchantement, le viandier de Polpette, car l'enfer est ici, et on va revenir sur un gros morceau, c'est l'intégrale de Spirou et Fantasio par Morvan et Minuera, qui avait été très décrié à l'époque de sa sortie.
Ça donne envie tout ça.
Ouais, ça donne envie. On va commencer par un petit peu de news, parce que de temps en temps on a des nouvelles choses à dire. On finira l'émission avec un petit courrier des lecteurs, parce que vous avez écrit plein de choses très sympas.
Et des choses moins sympas.
Mais bon, commençons par les news. BDO, site généraliste un peu sur la bande dessinée, d'actualité, de chronique et compagnie, a lancé les prix BDO de la bande-annonce. Je trouve ça vachement original parce que de plus en plus, les éditeurs nous font des bandes-annonces pour nous annoncer leur sortie. C'est parfois très très drôle, parfois très très bien fait. Je les ai pas toutes vues, mais j'avoue que...
Ce qui sous-entend quand même que quand tu dis c'est parfois drôle, parfois très bien fait, c'est-à-dire que des fois c'est parfois très mauvais aussi.
Ah bah oui, mais ça c'est le problème de la bande-annonce. Hein. La BD n'est pas vraiment adaptée à une bande-annonce genre ciné. Quoi. Moi je sais que celle de Body Bags qui avait été faite était assez géniale.
Il y a aussi des films des fois qui ne devraient pas être mis en bande-annonce aussi.
C'est vrai.
Parce qu'en fait, t'as déjà en une minute à raconter tout le film.
C'est vrai. Ben là, j'espère qu'ils évitent de le faire. Bref, je trouve le truc très original. Vous avez très très peu de temps encore pour voter parce que c'est jusqu'au 13 octobre, soit dans 4 jours. Si ce podcast est publié à l'heure. Et donc, c'est sûr.
13 octobre ?
Ouais.
Putain, je repasse en vacances, disons.
Ouais. Prixbandeannonce.bdo.fr. De toute façon, on met un lien sur le site. J'ai découvert une initiative des Humanos qui font quelque chose de très très sympa. C'est-à-dire qu'en gros, ils permettent de lire en intégralité, certains de leurs albums, gratuitement, en téléchargement, en ligne. C'est plutôt la classe.
Ouais.
Donc, c'est sur humano.com/IBD. En ce moment, il y a Bouncer, tome 1.
Et Cité 14.
Saison 1. Je trouve ça plutôt fun. C'est des BD que je n'ai pas lus, dont j'ai entendu beaucoup de bien.
Bouncer, c'est quand même un truc qui est quand même pas tout jeune. Enfin, tout jeune.
Enfin, oui. Mais... Ça continue, c'est Book et Jodorowsky. Moi, j'aime beaucoup Book. Jodorowsky, ça dépend des moments. Ça dépend de ce qu'il a consommé avant.
Ça dépend des phases.
Ouais. Et Cité 14, j'en ai entendu beaucoup de bien, même si je ne l'ai pas lu. On a enfin le nom du label pour DC, enfin du label comics de Dargo. Ça va s'appeler Urban Comics. Alors, beaucoup se sont posé la question de... Ça s'appelle Urban Comics, mais ils vont éditer Swamp Thing. Ça se passe dans un marais. Ah. Bon, en gros, ils voulaient mettre en avant le côté comics urbain, dans le sens la cité. Ils ont fait tout un speech assez... On voit qu'ils ont réfléchi à leur speech, en fait. J'ai trouvé ça assez rigolo. Le logo est très sympa. Ils sont actifs sur Twitter, sur Facebook, et très réactifs, comparé au précédent éditeur des produits d'ici, en tout cas. C'est-à-dire, sachant qu'ils n'ont rien sorti...
Voilà, j'allais te dire, si tu veux être plus communicatif que le précédent, c'était quand même pas difficile. Quoi.
C'est vrai. En tout cas, sachant qu'ils n'ont rien sorti encore, je trouve leur présence sur les réseaux sociaux très sympathique. Une autre initiative sympa qui s'appelle Un œil sur la BD. Donc, c'est un petit émission, des interviews courtes.
Tu nous le fais à québécois depuis tout à l'heure, parce que je crois qu'on a eu une originale qui était un petit peu originaux, normalement... Une émission qui était un petit émission.
Là, tu vois, je suis tenté de te faire l'accent québécois en vrai, mais je sens que je vais me faire une vraie foirade et que les auditeurs vont tous se moquer de nous. Donc, je ne le ferai pas et je dirai que ça s'appelle Un œil sur la BD. Il y a des interviews d'auteurs qui nous parlent de leur rapport à la bande dessinée et aux nouveaux médias, la BD numérique, etc. C'est très intéressant, c'est très bien fait. Ils avaient un logo pas très très joli et en fait, comme Vendry, dont je parlais, en gros, leur a dit « Votre logo, c'est de la merde. Si vous voulez, je vous en fais un. » Il leur a fait un nouveau petit logo plutôt mignon, plutôt rigolo. Voilà, c'est un œil sur la BD, tous les liens sur les notes du podcast.
Et te paye une petite quote-part pour l'œil.
Ouais, c'est vrai. Enfin, tu veux dire, si à chaque fois qu'il y a un œil sur un logo, on doit payer quelque chose, déjà on commencerait parce que No Watch, c'est le gros truc où ils ont plein de podcasts, leur logo c'est un œil sur fond vert. C'est pas fait exprès que le nôtre ressemble à ça, je pense que c'est les idées qui se croisent
Ouais,
violemment,
c'est
c'est les
ça.
effluves qui se croisent.
Il faut jamais croiser les effluves,
Ouais.
c'est mal.
Ben, en parlant d'œil sur fond vert, le sympathique The Bully nous a fait un superbe cadeau en la présence d'un fan art. Il nous
Ouais.
a fait un fond d'écran super sympa.
Que ma femme, elle sait enfin que je suis une star et tout. Je fais,
Ouais.
regarde, on a notre premier fan art. Elle me fait, c'est quoi? Je fais, regarde, c'est trop beau et tout. Je l'ai mis en fond d'écran. Et elle a fait, oh, c'est super bien. Et elle est repartie.
Donc, c'est joli. C'est plein de jolis couves de comics derrière, de comics que moi j'apprécie. Que j'ai lu il y a longtemps parce que c'était ouh des vieux trucs. Enfin bref, c'est très joli, c'est très bien foutu. On va mettre un lien vers le site The Bully, il y a un podcast super sympa qui s'appelle Zigbox, qui est un podcast sur la musique et qui a un peu la même approche que nous de la musique, c'est-à-dire qu'il écoute de tout, mais vraiment de tout. Il passe aussi bien du hip-hop au jazz, au R&B, au rock, au heavy metal, des genres qui en théorie ne sont pas faits pour coucher ensemble. Mais chez The Bully, tout le monde couche ensemble. Écoutez son podcast. Si j'ai pas donné envie comme ça, je veux dire, je vois pas ce que je peux faire.
Si t'avais dit qu'ils faisaient des films où tout le monde couche ensemble, je pense que tu serais encore plus vendeur.
Vous pouvez voir la chambre de The Bully sur Chambre de Geek. Sérieusement. Donc, nous poursuivons avec.
Mais avec notre
On a eu un
émission,
petit troll aussi, on le signale, ça m'a fait
c'est le
sourire.
début de la célébrité.
Voilà, oui. Alors, sachez que j'apprécie les critiques quand elles sont construites et pas données sur un ton rageur, ce qui était un peu le cas de ce troll. Je vous invite à faire des recherches si vous voulez le trouver. Moi, ça m'a un peu fait sourire. J'ai tenté de répondre de façon posée et calme en invitant la personne qui n'avait pas apprécié notre podcast apparemment à aller écouter d'autres podcasts très sympathiques qui sont d'ailleurs en lien quasiment tout le temps sur notre blog.
T'es susceptible en fait, t'apprécies pas la critique, putain, dis-moi, tu... Hein?
Ouais,
Hein?
ouais.
Hein? Hein? Et après on
Après,
fait
on parle de toi.
et après on parle de moi, ouais, c'est ça.
Et si on parlait plutôt de nos nouveautés, le presque neuf, faut qu'on change nos rubriques un jour. Je commence à trouver notre rubriquage tout pourri, mais j'ai aucune idée sur comment le revoir.
Bah
Si vous avez des idées,
ça fait 50 émissions qu'on le fait,
ouais.
alors.
Si vous avez des idées sur un rubriquage plus intelligent et mieux foutu, on prend. Et on commence avec de chair et d'écume. Par Wanderer.
Mais il n'y a pas que lui.
Si, si, il n'y a que son nom dessus. Ouais, il a peut-être des assistants, j'en sais rien, mais il n'y a que son nom dessus. Ah oui, il y a un script doctor.
Là, tu vois?
Éric Galland. Donc,
Hey.
connais-tu le travail du script doctor?
Bah, c'est le mec qui a un stéthoscope et qui ausculte.
Script doctor, c'est un truc très américain dans les séries télé et les films américains. C'est en gros, le gars, il a fait un scénario et il fait appel à un gros spécialiste qui va lire son scénario et faire ça, c'est pourri, rechange. Ça, revois autrement, ça, bidouille. Donc, c'est chez Dargo, ça coûte DA06, il faudrait que j'ai un traducteur automatique de DA et de
Ouais, mais
DU
c'est
et de
pas
DE.
c'est sur c'est plus d'une BD normale quoi,
Ouais,
13 14 euros.
13-14 euros. Et qu'est-ce que ça nous raconte?
Alors déjà on nous l'a classé dans le style Indiana Jones.
Oui, c'est de l'Indiana Jaune, oui, c'est ça.
Alors, Indiana Jones au pays asiatique.
Et l'histoire, c'est quoi? Bah vas-y. C'est pas un blanc comme ça. On nous a dit qu'on n'était pas assez rythmé.
Ah, excuse-moi. Donc l'histoire, c'est une sorte de savant fou qui travaille avec son fils à la recherche d'un trésor. Et ça va commencer à intéresser beaucoup de monde, dont des Russes méchants, mafieux, qui vont essayer de récupérer la carte du fameux
D'accord.
trésor.
Et on s'enchaîne une série d'aventures.
D'aventures, de courses-poursuites.
Les
En
relations
Asie.
familiales du savant fou sont intéressantes. Il a un fils qui est un peu un bourrin un peu bêta, j'ai l'impression.
Naïf.
Ouais, naïf, qui fait tout ce que veut son papa contre sa mère, qui elle est enfermée apparemment dans le temple où ils sont en train d'étudier une sorte de flûte d'écume qui mènerait au trésor. Et la mère qui apparemment déteste cordialement son mari de savant fou. Et c'est assez étrange. Qu'as-tu pensé du dessin, ton mot pour le dessin?
Je crois que j'avais mis onirique.
Difforme.
Ben voilà.
Dans le sens, les visages sont toujours très déformés, très exagérés, mais pas que ce côté caricatural, c'est-à-dire que quand un personnage gueule, il a vraiment la bouche de travers qui part dans tous les sens. Ces femmes ont toujours des têtes très très exagérées, aux traits tirés, poussés au maximum.
Ben c'est moi je le voyais comme ça en fait. C'est oscille entre le... Voilà, on va le faire comme ça. Attends. Entre le cauchemar et le rêve. Excusez-moi, j'ai un petit problème de micro en fait. Voilà. Hop, là c'est bon.
Ouais, c'est mieux.
Là c'est mieux. Voilà, donc moi j'ai l'impression d'osciller entre le
Get
cauchemar
up.
et un petit peu des fois le de rêve un peu érotique, quoi.
Il y a un travail de la couleur qui est très sympa, moi je trouve. Il joue beaucoup sur des tons un peu pastel, avec beaucoup de dégradés en douceur. Il joue beaucoup sur les contrastes de couleurs, des ambiances très très fortes que j'ai trouvé sympathiques. Mais disons que les caractérisations de ces personnages, moi, m'ont laissé un petit peu. Ils sont pas sympathiques. Il n'y en a aucun qui te donne envie de t'attacher à lui, en fait.
Ça fait un peu caricatural, mais ouais, je dirais que ça reste dans l'ensemble, ça reste dans un ton qui est quand même assez plaisant, je trouve.
Le scénario.
Hop,
J'ai mis confus.
aventure.
Aventure.
Je suis resté simple.
C'est resté simple.
Ah, c'est confus, c'est normal, grand. C'est le premier tome.
Ouais, mais même,
Ça se lance,
il part sur le début, c'est tout un délire autour d'une légende
Eh
asiatique.
bien oui, mais il te raconte le début de l'histoire, sinon tu vas pas comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent chercher le
Voilà,
trésor.
et puis tu sais pas trop où ça mène derrière, et ensuite ça part en vrille, t'arrives pas à savoir qui est qui. J'ai un peu mélangé les personnages, donc là ça vient aussi un peu du dessin. J'arrivais pas trop à savoir quelles étaient leur volonté, et la chute m'a laissé un peu sur le cul parce que j'ai eu l'impression qu'on changeait de genre. Totalement. Donc,
Ah.
sans révéler la fin de la BD, j'arrive à la fin, j'ai fait, ah, ça y est, je viens de changer de BD en fait.
Ah non. Bah non, parce que justement, en fait, tu là, je vois ça qu'il faut pas trop en dire,
Ouais.
Au contraire, moi, j'ai trouvé, voilà, c'est un bon début. Il t'a casé, c'est vrai, beaucoup de choses dans le premier tome, mais ça fait, je trouve, des bons prémices pour un bon scénar. J'espère que ça dure, enfin, par contre, j'espère que ça durera pas non plus 20 tomes, je pense que ça peut être une bonne histoire en fait.
Bon, en gros, si t'as plu, tu prendras la suite, donc on saura ce que ça va donner.
Voilà, ouais, toi ça t'a pas plu, donc tu le liras de force comme d'habitude, et ça se trouve
Voilà.
tu le liras même pas en entier comme t'as déjà fait pour l'une BD.
Ouais.
Ouah, ouah. Et donc, nous passons à un gars qu'on n'avait pas vu depuis longtemps.
Ouais.
Comment il s'appelle déjà? Attends.
Warren,
Comment il s'appelle?
Warren Spector.
Warren Spector, c'est ça.
Non, Warren Ellis avec
Warren
Super
Ellis.
Gods.
Et Gary Gastoni.
Gary Gastoni qui a pris le rôle de Juan José Rip, car nous sommes en gros dans la même trilogie entre guillemets qu'avait lancé Warren Ellis chez Avatar,
Avec Black Summer et No Hero.
qu'on a critiqué dans des épisodes précédents, qu'on avait trouvé plutôt sympathique. Et avec Super God, en gros, il essaye d'aller un peu plus loin. Donc le quatrième de couvre résume très très bien leurs intentions.
Le récit de l'Apocalypse.
Voilà, mais comment est-ce qu'il le situe par rapport aux autres épisodes? C'est toi qui as le bouquin, vas-y, dis-nous le quatrième
Ah,
de couve.
le quatrième de coup?
Ouais, t'es dessus, c'est super bien écrit.
Ah, Black
Sauf un.
Summer parlait de super-héros bien trop humains, No Hero de super-héros renonçant à leur humanité, Super God parle de super-héros qui ont perdu leur humanité pour devenir tout autre chose.
Voilà, donc on
Warren
reste
Ellis.
toujours sur ce que mettre le super-héros dans un contexte différent et dans un contexte qui se veut réaliste. Et au niveau du genre, nous avons appelé ça un. J'arrive même plus à me lire. Délire mystique.
Ouais, délire mystique, c'est ce qu'on avait mis.
Ça part un peu en vrille. Tout commence avec un savant qui est apparemment entouré de la fin du monde et qui est en train d'envoyer un message à un homologue étranger, c'est un savant anglais, qui envoie un message à un homologue étranger américain.
Qu'il pourra peut-être lire un jour.
Voilà. En lui expliquant c'est la fin du monde et qui décide de nous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et comment on en est arrivé là? C'est simplement que les gouvernements ont essayé tous d'avoir un sorte de programme. C'est du ce genre le programme du super soldat de Captain America, mais en version avancée. C'était créer une sorte d'arme personnelle en transformant des hommes en dieux. Et tout ce que nous raconte la BD, c'est comment est-ce que les humains ont perdu le contrôle sur leur création, car ce sont les hommes qui ont créé les dieux, pour le coup, enfin qui ont créé, qui ont participé à leur création, parce qu'en gros ils ont mis les éléments qui permettaient de le faire les uns avec les autres, et comment est-ce qu'on est arrivé à l'apocalypse et pourquoi. Le dessin, on va pouvoir y venir assez rapidement dessus, j'ai trouvé que c'était mon mot, et très spécial, c'est fourmilière.
Comics.
Comics. Ah ouais, toi dans les mots.
Ouais, non, là j'ai fait fort. Ouais, mais là j'avoue, j'avais rien qui sortait, quoi.
bon, en gros, tu trouves que c'est du comics, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est ça?
Ouais, un peu gore, un peu des fois, comment je dirais, mélangiste, dans le sens où t'as beaucoup de choses qui se mélangent, quoi.
Mélangiste. Mais c'est... Bon, moi j'ai dit fourmilière parce qu'en fait, justement, pour du comics, il y a beaucoup de détails dans les décors. Et pour du post-apo, c'est vrai que montrer les petits détails des gens en train de mourir dans tous les coins des cases, c'est pas mal. Beaucoup de détails, et on a l'impression justement qu'il te fait une fourmilière, et qui va bien avec le thème, je trouve aussi. C'est-à-dire que quand il nous montre tous ces humains en tout petit, dans des coins de cases, en train d'agoniser, on a l'impression de regarder une fourmilière qui est en train de se faire écraser
Par des super dieux.
par des super dieux. Venons-en au scénario. Tu seras peut-être plus inspiré.
Ah, moi j'ai mis religieux. Hein.
Ah ouais, j'ai mis pédant.
Ah ouais?
Ouais.
Pourquoi pédant?
Bah, j'ai trouvé que sur cet épisode-là, Warren Ellis, il se la pétait un peu, qu'il se faisait des sortes d'analyses et de un peu trop pseudo-intello. Genre, vous voyez, le super-héros, le dieu, qui mélangeait les deux, mais de façon un peu artificielle, pour un scénario qui, au final, n'est pas très prenant, parce que de toute façon, on ne peut pas s'attacher au personnage, parce que tout ce qui est humain meurt, et tout ce qui n'est pas humain n'est forcément pas attachant. Ça va très très vite, ça va vraiment dans du n'importe quoi, il en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, il te mélange tout et n'importe quoi. On retrouve un peu ses idées, mais c'est comme s'il avait pris le... Comment? L'idée principale une idée principale qu'il a plein d'idées principales qu'il a pu utiliser dans d'autres comics, mais qu'il avait gardé que ça, et sans tout le cheminement qui rendait cette idée intéressante.
Ouais, tu l'as trouvé brouillon, en fait.
Ouais, il y a un côté brouillon, mais surtout, je veux dire, qui se la pète, c'est regardez, je vais vous faire ma super théorie sur le super-héros et Dieu. Pédant.
Moi, je serais pas, tu vois, je serais pas resté sur la théorie du super-héros, en fait. C'est plutôt sur l'homme et sa religion.
Ouais.
Je pense que voilà, le super-héros, c'est vraiment un prétexte qu'il a pris. Peut-être pour ça, du coup, comme ça sort du comics, ça te...
Les précédents étaient vraiment... Enfin, je le vois aussi dans la continuité de la trilogie, entre guillemets. Les précédents nous parlaient
De super-héros, ouais.
de ce côté super-héroïque, d'humains qui allaient au-delà de leurs conditions humaines, enfin, ou qui voulaient aller au-delà de leurs conditions humaines. Là, j'ai l'impression qu'on sort du sujet
On sort du sujet, je suis d'accord.
et que ça n'a rien à faire dans cette trilogie, en fin de compte.
Moi, je dirais c'est la continuité, quoi. C'est l'ultra extrême, quoi. Quand tu veux devenir un super-héros, quand tu veux des super-héros, bah finalement tu peux même en faire une religion et du coup même enfin, en arriver à détruire le monde dans une... Ouais, ça tient la route, quoi. C'est... Moi, je dirais il est allé au bout du raisonnement, je pense plutôt.
Ouais, je trouve qu'il est allé trop loin.
Okay.
Point de vue intéressant. C'est pour ça que je m'appelle Giovanni. De Claudio Stassi, d'après le roman de Luigi Garlando. T'as vu cet accent quand j'essaie de...
Putain, t'es pas allé en Sicile en vacances, hein?
Ouais, d'argot. Alors, super sympa, c'est ma libraire qui m'a refilé ça. Quand je suis revenu de vacances, je revenais de Sicile. Je regrette un truc, c'est de l'avoir eu en revenant de Sicile. J'aurais dû le lire avant. Le genre.
Historique quelque chose.
Ouais, c'est de l'historique sentimental. On est dans un truc un peu sentimental, dans le sens où on va nous raconter l'histoire du juge Giovanni Falcone et de son combat contre
Contre
la
la
mafia.
mafia.
Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Et c'est un père qui raconte à son enfant cette histoire-là, et comment lui, il l'a vue, en fait, de la rue, entre guillemets. Donc on a un peu toute cette histoire, ce côté, cet enfant qui se pose des questions très simples.
Ouais, enfin, c'est aussi parce qu'il part du prétexte que il y a un petit qui traumatise tout le monde à l'école et que personne ne veut le dénoncer et
Ouais.
que du coup tout le monde le couvre et tout le monde souffre mais personne ne dit rien, donc voilà, c'est.
Voilà, il arrive à se poser toutes ces questions. Enfin, il en arrive là parce que. Et il va lui expliquer aussi pourquoi il s'appelle Giovanni, qui est le nom de l'album. Au niveau du dessin.
Aquarelle.
Ah, ça y est, j'ai perdu ma page. J'ai dit brouillon. Je trouve qu'il y a un mélange de genres qui passe mal. Le môme a un style, est dessiné dans un style manga. Clairement. Gros yeux, style vraiment manga, gros yeux qui brillent, on dirait Candine, tu vois, quand tu le regardes dans les yeux. Le père, un style beaucoup plus réaliste, entre guillemets, hein, parce qu'on a quand même un côté très lâché, très. Et je trouve que cette dichotomie entre les styles des deux personnages principaux m'a choqué. C'est-à-dire que t'as un côté reportage un petit peu dans tout ce qu'il raconte, donc un côté réaliste. Et le môme à côté, on a l'impression qu'il sort d'une bande dessinée pour enfants, qui fait « Ouais, c'est super la vie !» Je sais pas, c'est le côté manga du môme qui m'a gêné. Je trouvais qu'il n'était pas...
Qui était pas d'accord.
Pas que l'idée soit mauvaise, mais c'est vrai que c'était pas raccord.
Moi, ça m'a
Et...
pas choqué dans ce sens-là. Après, peut-être que on pourrait te l'expliquer parce que justement, si tu veux, comme l'enfant, il est encore naïf, il n'a pas vécu la mafia, tout ça. Du coup, peut-être qu'il est différent, tu vois. Peut-être que lui, il a une sorte de naïveté, tu vois, de candeur, en fait.
Oui, non, mais
À la Gandhi, peut-être.
l'idée est bonne,
Mais
mais
non, j'ai trouvé ça. Enfin, c'est pas, ça m'a vraiment pas choqué. Le dessin, il joue. Enfin, voilà, je le trouve le dessin joli, agréable, mais
oui, les couleurs à l'aquarelle sont très douces, très sympathiques.
L'essentiel n'est pas là, quoi.
L'essentiel est dans le scénario, c'est pour ça que j'avais voulu
C'est
qu'on parle du
vraiment.
dessin en
Enfin, voilà,
premier.
le dessin, je trouve qu'il est vraiment annexe. De toute façon, en plus, ça part
D'un
d'un
roman.
roman au départ, donc du coup, voilà, c'est vraiment
Donc c'est un
une.
roman pour ados apparemment, hein, très didactique justement, et c'est mon mot pour le scénario, c'est didactique.
Fait divers.
Fait divers. Pourquoi fait divers?
Bah parce que pour moi c'était un fait divers en fait la mort du juge Falcon
Ah ouais?
et bah ouais
Tu
ça
n'avais pas pris l'ampleur
bah,
de...
donc enfin moi je sais pas enfin petitement en France ouais j'ai vu je me rappelle le jour où j'ai vu l'info à la télé mais ça m'a pas ouais ok bon bah la mafia a tué un juge en Italie quoi
Oui, mais
mais ça m'avait
dans notre image, on était môme aussi, hein. En
ouais
France,
mais ça
la mafia
c'était.
qui tue un juge en Italie, c'était tous les jours que ça arrivait.
Ben ouais, non, enfin, non, mais c'est ouais, c'est ça en fait.
Voilà,
Bon,
on le
si.
voyait dans Un flic dans la mafia à la télé.
Ouais, et puis après, on l'a vu dans Les Sopranos aussi.
Longtemps après.
Mais c'était pas choquant. C'est vrai que je me rappelle l'image du cratère, parce que ça, c'est vrai qu'à la télé, ils te le montraient, parce qu'il a mis, je sais pas combien de kilos de TNT pour tout faire péter, quoi. Mais pour moi, ça avait pas été quelque chose qui était important, quoi. C'est pour ça que je dis fait divers pour moi en France, mais c'est là où tu réalises que eux, en Italie, ça a été.
Ah oui, c'était super important en Italie et
C'était.
particulièrement en Sicile.
Ouais, enfin, du coup, tu as presque pour eux, ça a même le même impact hein, que le 11 septembre, quoi. C'est un événement qui date dans leur histoire, quoi.
Oui, parce qu'en plus, ça a permis à beaucoup de gens de se réveiller derrière, apparemment. Enfin, ça a permis, ça a aidé. La mafia n'a plus fonctionné exactement pareil après, même si je pense que elle continue. Mais non, mais la mafia, ça n'existe pas.
Ouais, faut que je fasse différemment, enfin bon. C'est pour ça que moi j'ai mis fait divers. Fait
Ah
divers
ouais.
pour nous, mais je pense très important pour eux, quoi.
Moi, didactique, parce qu'effectivement, on est dans des choses très complexes, très politiques aussi, hein, parce qu'il y a un côté politique au niveau de l'histoire, au niveau du fonctionnement de la mafia, qui est très très bien expliqué. Je trouve que ça a beaucoup changé de cette image d'Épinal qu'on peut un petit peu avoir de la mafia sicilienne. Je suis désolé, mais maintenant, moi, quand je pense mafia sicilienne à cause des Sopranos, je vois Tony Soprano en costume de légionnaire.
Ouais, mais c'est un délire qui se fait une
Oui,
fois.
j'exagère, mais tu as ce côté. Enfin, on a une image d'Épinal, t'as Mafia Blues, t'as toute la mafia telle que te l'a montré.
Ouais, mais enfin, moi, je trouve que tu retrouvais bien l'image des Sopranos, quoi, dedans.
Oui, les Sopranos restent une série réaliste sur ce sujet-là, on va dire. Enfin, qui se veut réaliste. Mais, ouais, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses et ça m'a donné vraiment envie. Et j'ai regretté d'avoir visité Palerme avant d'avoir lu la BD, parce que je serais allé voir l'Arbre Falcon, et je regrette de ne pas avoir vu cet endroit qui doit être. Alors, l'Arbre Falcon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit où tout le monde vient laisser un message d'espoir, de soutien à la famille Falcon et à son combat contre la mafia. Donc c'est une belle histoire, c'est un petit format comics qui doit coûter dans les 12 euros chez Dargaud. Je sais pas, hein, il est à DA08, il est donc moins cher que l'autre, qui était un 09 je crois.
Non, c'est un 06 l'autre.
Ah ouais, ah, il est peut-être plus cher, je ne sais pas, donc 15 on va dire. Bref, moi j'ai trouvé ça très sympa.
Très sympa, intéressant.
Voilà, surtout intéressant.
Et là, on passe à un enchantement.
Un enchantement de Christian Durieux, qui est une collaboration entre Futuropolis et le musée du Louvre. C'est pas la première des collaborations, il y en a eu d'autres, sachant que je n'en ai lu aucune, mais il y en a une qu'il faudrait que je lise. C'est celle avec Marc-Antoine Mathieu. Il y avait déjà eu Période glaciaire avec De Crécy, Le sous-sol du révolu avec Marc-Antoine Mathieu, Le ciel au-dessus du Louvre avec Hilaire, ciel, tu vois, c'est. Il adore. Il y en avait une avec zut, Yohiko, je sais plus comment son nom, Araki, qui est un artiste japonais. J'avais trouvé ça. J'avais trouvé le principe sympa, mais le style graphique me convenait pas. Et il y en a eu une autre avec Éric Liberge qui s'appelait Les Heures Impaires.
Ça, c'est dit.
Ça, c'est dit. Au niveau de Christian Durieux, moi je le connaissais pour son travail sur Oscar dans Spirou. Est-ce que tu te souviens d'Oscar? Dans le magazine Spirou, le petit garçon qui faisait Comentir,
Pas un
qui
brin.
vivait avec des clodos,
Alors,
et
toujours
avec
pas un brin.
toute la DAS qui essayait de le récupérer et tout.
La
Pas.
DAS n'existe plus, hein.
Ouais, enfin. Le truc qui était la DAS. Monsieur s'y connaît.
Non, 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 du tout. Non, ouais, non, pas du tout. Alors, vraiment pas un
Donc,
brin.
c'est un grand format carré. Et au niveau du genre, forcément, ça se passe, c'est une parabole artistique. Ça se passe au Louvre et allez, fais le résumé un peu. Je viens d'en faire deux
Bah,
d'affilée.
c'est le président, enfin le dirigeant
C'est un
du...
ancien ministre.
Ouais, mais tu sens quand même que c'est enfin, c'est le gars qui a tout di qui dirigeait tout en sous-main, quoi. Il est, voilà, il
C'est un ancien
était...
ministre des Finances.
Ouais, mais bon, un peu plus, je pense.
Sachant que le ministère des Finances se trouvait à une époque
Ok,
au
au
Louvre.
Louvre. Enfin bon, voilà, donc un dirigeant qui se retrouve donc dans une soirée qu'on a organisée pour lui.
Pour son
Pour
départ à la retraite,
lui
quoi.
faire plaisir, on a fait plein de choses, mais bon, lui, ça le fait vraiment chier, en fait. Donc, il se casse avec une bouteille de vin,
Deux.
deux bouteilles de vin, et il va se balader dans le Louvre le soir.
Il y croise une jeune fille qui elle aussi se balade dans le
Ouais,
Louvre, donc le
un
soir.
peu bizarre, étrange.
Et il commence à discuter, à se balader, à essayer de se faire discret pour pas se faire choper par les vigiles qui ont bien vu qu'il y avait un truc bizarre qui se passait autour de ça. Au niveau du dessin.
Beau.
Charmant.
Bah, c'est beau parce que franchement, quand même, il reprend pas mal de tableaux qui sont au Louvre.
Et puis il a réussi surtout à bien intégrer
Bien
son trait.
intégré, ouais, le dessin et les tableaux. Franchement, c'est sympa.
Il travaille sur un papier de type un peu genre craft. Et donc le blanc est une couleur pour le coup. Au niveau de l'usage, il y a un côté bien rendu. Il y a un côté caricature aussi, c'est-à-dire que le look de l'ancien ministre,
Fait un peu penser à Tonton quand même.
ouais, François Mitterrand, de façon très volontaire, je pense. J'ai lu une interview sur Bodoï, je mettrai le lien justement où il explique que oui, c'était le cas. Et il y a un choix d'œuvre parce qu'il passe devant ses œuvres, etc. Et ça s'intègre superbement. Le trait est très fin, très léger. La jeune fille a un côté aérien.
Spirituel.
Elle est belle, sans être bonne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il nous a pas fait une bombasse, tu vois. Non, il nous a fait une femme vraiment belle, tout en beauté et tout en douceur, avec un trait très habile. Moi, j'ai trouvé le dessin vraiment superbe et puis le travail dans le format carré, très sympa. Le scénario mélancolique.
Spirituel. Et là,
Il y a une sorte de tristesse dans cette bande dessinée qui nous raconte un voyage quelque part à l'intérieur du Louvre. Un voyage qui a un côté ultime. On est quand même en train de fêter la retraite du gars, même si on ne sait jamais vraiment. La fin est très ouverte, donc on peut pas révéler ce qui se passe à la fin, vu que c'est super ouvert dans le genre.
Ouais, mais bon, ça reste.
Moi, j'ai trouvé ça. J'ai été pris dans le voyage du début à la fin. J'ai réussi à suivre ses œuvres. J'ai été pris dedans.
Ben moi, ça a été. Esthétiquement, c'est très beau, mais c'était une grosse déception. Je m'attendais à quelque chose de. Voilà, quand j'avais le pitch au départ, je me suis dit, putain, ça va être trop bien. Je vais me régaler. Et ouais, c'est beau. Mais l'histoire m'a pas un brin touché, quoi. Je suis resté un peu hermétique. Tu suis cette histoire-là au fur et à mesure. Ils avancent dans le Louvre. Ils font des petites blagues à ceux qui les suivent. Ouais.
Je connaissais la technique d'ouverture de bouteilles de vin sans.
Ouais, je la connaissais aussi.
Et ça marche.
Ouais.
Oui, alors, vous pouvez au moins acheter cette BD pour savoir comment ouvrir une bouteille de vin quand on n'a pas de tire-bouchon.
Ouais, ça, je la connaissais.
Par contre, il ne faut pas être en tongs.
Non. Non, la tongs pose souci.
Enfin bon, moi j'ai trouvé dans le scénario très, très joli, qui nous faisait suivre les tableaux. Ça m'a donné envie de m'intéresser aux tableaux, à l'analyse de ces tableaux, parce qu'on sent qu'il y a un lien vraiment très fort entre les tableaux et le cheminement des personnages.
Ouais, peut-être. Voilà. J'avoue que voilà, j'ai été vraiment déçu, ça n'a pas été palpitant quoi, comme lecture.
Faut que tu lises l'interview de Durieux, elle apporte un éclairage assez intéressant, même si, effectivement, pour apprécier une BD, on ne devrait pas avoir besoin de lire l'interview d'un auteur. Mais enfin, moi j'ai trouvé ça sympathique, c'est une collection en tout cas que je trouve géniale, parce que... ça met en valeur le musée sans être une publicité lénifiante. Ça me donne envie de refaire un tour au Louvre. Par contre, si je pouvais, dans les mêmes conditions, visiter le Louvre, j'en serais ravi. De nuit, sans personne.
Ouais, non, si, avec une personne au moins.
Voilà,
une personne qui t'explique un peu les tableaux, parce qu'il y a quand même, je pense que c'est intéressant.
Voilà, de nuit, bien accompagné, ça serait vraiment cool.
Et nous passons au viandier.
Au viandier de Paul Pets.
Et là, on change quand même complètement de registre, même si on est quand même dans le musée, mais un musée culinaire.
C'est une aventure culinaire pour le genre.
Donc de Julien Ailet
et
Olivier Milot.
Nous allons suivre l'histoire d'un endroit qui s'appelle le Coq Vert, car c'est l'histoire de l'endroit hein, plus qu'autre chose, où il y a une auberge qui accueille les voyageurs. Et qui essaie de les accueillir au mieux. Cette auberge a de nombreux personnages à l'intérieur, dont le viandier de Paul Pets, mais surtout son patron, qui est un... C'est quoi son rang déjà
Le comte.
Un comte, qui est un petit peu un grand enfant. Hein. Il joue avec ses jouets dans la baignoire. Il n'a pas vraiment su vieillir. Et drame terrible... Son père vient lui rendre visite et son père est quelqu'un de très dur. On est dans un univers médiéval fantastique et son père, en gros, c'est le mec qui fait la guerre, c'est un guerrier. Et donc, il va falloir se préparer à le recevoir. Et donc, on voit un peu toute la petite troupe qu'il y a dans cette auberge. Il y a beaucoup de personnages, tous très sympathiques. Parlons donc du dessin.
Cartoon.
T'as vu un peu quand on fait de la bonne petite musique pour meubler quand on cherche les trucs. Brillant. Alors, cartoon, je pense que ton terme va de soi. Un côté très cartoony.
Bah, moi, ça me fait penser beaucoup à du Miyazaki, en fait.
Miyazaki version dessin animé, parce que le style de Miyazaki version BD, c'est pas vraiment cartoon.
Bah, au château de Cagliostro, quoi.
Château de Cagliostro.
Arsène Lupin, quoi.
Ouais.
Cette période-là, parce que voilà, c'est ça. Puis après, avec en plus, tu prends les dessins de des chars,
du père,
du père guerrier. Tu retrouves vraiment ce que tu pouvais avoir dans Nausicaa, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a cette approche, etc. En plus lumineux, plus pastel. Moi, c'était ce côté brillant.
Plus pastel. Mais ça reste...
C'est vachement flashy. C'est beau. C'est joyeux. C'est une BD joyeuse qui est très souriante dans le dessin.
Ouais.
Et souriante dans le scénario que j'ai jugé appétissant.
Fable,
c'est une fable. Ouais, explique-toi en fable.
Bah, une fable, quoi. Je veux dire, tu prends Une fable, c'est quoi? C'est ni plus moins qu'une histoire à la fin de laquelle il y a une petite morale, quoi.
Ah, quelle est la morale de cette histoire? Peut-on la révéler à notre public?
Bah, je dirais que non, parce que
On
sinon,
va raconter l'histoire.
c'est ça. Mais voilà, pour moi, c'est une super jolie fable.
Alors, moi j'ai trouvé l'histoire appétissante sur plusieurs points de vue. Premier niveau, tout simplement, on a des recettes au milieu. Et les
Yes.
recettes, elles donnent trop envie, elles sont
Mais
racontées de
c'est
façon
ça,
très
ouais.
sympathique. Ça m'a un peu fait penser à ce que peut faire Guillaume Long sur son blog, avec un petit peu moins d'humour dans la façon dont sont racontées les recettes. Mais en tout cas, ça donne envie, quoi.
Bah, si tu veux, là, c'est à son petit menu.
Moi j'ai découvert ce qu'était l'ail des ours, je ne connaissais pas du tout.
Ouais. Qui t'explique aussi comment faire un petit beurre d'anchois aussi,
Il y a
sympa.
des cocktails.
Ouais. La côte de bœuf et le gratin de macaroni, voilà, je trouve que c'est un repas tout simple, mais voilà, quand tu le vois même en dessin, ça donne envie.
Ça donne envie, c'est très très
Puis
réussi. Et donc,
le petit gin fizz de Fausto aussi.
voilà. Donc, tout au long de la BD, de temps en temps, quand un personnage se prend un truc à bouffer ou à boire, on nous explique comment c'est fait. C'est des petits interludes très sympas qui passent très bien. Ensuite, il y a aussi ce côté appétissant, tous les personnages sont sympathiques. On a envie, enfin, ils sont tous leur caractère, ils sont pas identiques, ils ont vraiment. Mais même le gars qui est une sorte de client régulier qu'on voit très peu et qui est très peu développé est sympa. Le petit vieux un peu sourd là. Hein. Enfin, il a réussi à rendre tous ces personnages attachants et on a envie de savoir ce qui va leur arriver. On suit leurs petites aventures, leurs petites engueulades, c'est très léger. Même si on sent quand même poindre une certaine lourdeur. Parce qu'apparemment, petit à petit, on se rend compte que tout ça se passe au milieu d'un monde en guerre. Et on est dans une sorte de havre de paix, complètement à l'écart de cette guerre-là. Et par petites touches, il arrive à nous faire nous rendre compte que ça va peut-être finir par aller mal. Et j'ai une certaine inquiétude pour le tome suivant, à savoir, est-ce qu'il va réussir à garder cette candeur?
Je sais pas, c'est un petit coin de paradis là où ils sont, donc.
Ouais, mais est-ce qu'il va réussir à garder cette candeur dans le tome suivant, ou est-ce que d'un coup l'ambiance va un petit peu devenir plus grise? Et est-ce qu'il va nous donner la recette de la soupe des soldats, ou ce genre de choses?
Ouais, mais en même temps, tu suis l'histoire de Polpette, quoi. Polpette, il vient des champs de bataille, il a quitté justement cette noirceur-là
Oui, il était cuisinier sur les champs de bataille.
pour trouver, si tu veux, voilà, justement, au coq vert, un petit peu de bonheur et de calme, quoi. Donc, je pense pas qu'il retourne maintenant de l'autre côté.
On verra ça. En tout cas, c'est une BD, moi, que j'ai trouvée très sympa, qui donne bien envie. C'est un gros pavé en plus. C'est édité
Chez Gallimard.
chez Gallimard. Ils sortent pas beaucoup de BD Gallimard, mais souvent c'est bien. Voilà, il y a le prix? Non.
18 euros.
Waouh, le prix en vrai. C'est un beau pavé, hein. Il y a pas mal de pages, donc ça les vaut
Ça les vaut
largement,
largement et
format comics et.
c'est très sympa. Je pense que ça peut être même un bon bouquin à offrir.
Ouais, puis c'est vraiment tout public surtout.
C'est ça, c'est un bon bouquin à offrir à tout le monde.
Julien Niel était connu pour ce qu'il avait fait sur Loup, une bande dessinée pour enfants, mais qui prenait pas les enfants pour des cons. Et franchement, là, on est dans du tout public. Ça, c'est super sympa. On sort du tout public, car l'enfer est ici. De Luc Brunchwing et Laurent Hirn et Nouo, mais je ne me souviens plus de son prénom.
David,
Ouais,
je crois.
peut-être.
Je sais pas. David!
Wow,
Waouh! Il faut une
David.
fois que j'ai un nom qui sort, moi, dis donc. C'est chez Futuro.
Et
C'est la suite du
c'est.
pouvoir des innocents.
Ouais. Que nous n'avons pas lu.
Ben non, désolé.
Que nous n'avons pas lu. En gros, Brunchwing a une grosse actualité ces derniers temps chez Futuro, vu qu'il a sorti Car l'enfer est ici,
Et les enfants de Jessica.
Les enfants de Jessica, et aussi Urban, dont on parlera dans 15 jours. Je n'ai pas lu Le pouvoir des innocents, j'en ai entendu pas mal de bien. Par exemple, Vendry en parlait dans l'émission où il était invité en disant qu'il avait trouvé ça exceptionnel, etc. J'ai découvert qu'il y avait une suite. Et c'est très lisible sans avoir lu le précédent.
Mais vous pouvez lire le petit résumé à la fin.
Oui, alors petit résumé à la fin.
Parce qu'il y a, voilà, à la fin du Car l'enfer est ici, il y a un petit résumé des trois tomes en fait.
Voilà. Car l'enfer est ici se passe 6 mois.
Après le pouvoir des innocents.
Voilà. Les enfants de Jessica, par contre, lui, se passe
Dix ans
10 ans
après.
après. Donc, ça se passe 6 mois après et le héros a été gravement a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Il s'est échappé pendant 6 mois, en fait, pour rester avec sa femme et essayer de lui trouver un endroit où elle serait en sécurité. Et il finit par se rendre à la police, sous les yeux des médias.
Pour éviter de se faire dézinguer.
Pour éviter de se faire dézinguer, parce qu'en gros, il est censé être responsable d'un attentat qui a tué 508 personnes, dont une sorte de star de la communauté afro-américaine.
Steven Providence, voilà. Un ancien boxeur.
Star de la communauté afro-américaine, qui en gros est donné l'impression d'être un peu un Mandela local, le gars qui allait faire que le racisme ça allait disparaître et tout ça. Voilà ce que j'ai compris, alors peut-être que c'est pas exactement ça, mais ça il aurait fallu que je lise Pouvoir des innocents avant. Et on va suivre donc les aventures judiciaires de cette enquête pour savoir comment est-ce qu'il va réussir à prouver son innocence, entre guillemets, ce qui est fort ennuyeux, parce qu'en fait il aurait été au milieu d'un complot qui a amené la maire actuelle, la maire de New York, à être élue. Sauf qu'apparemment, la maire de New York est quelqu'un de très bien et n'est pas au courant de ce complot.
Du complot. Mais elle connaissait le boxeur en question.
Oui, elle connaissait certains des points en question.
Jessica Rupert.
Donc,
c'est le nom de...
Le pouvoir des innocents racontait en gros comment une conspiration se mettait en place pour mettre une personnalité politique
au pouvoir,
quel que soit le coût, sachant que c'était pour le bien de tous. Et Carl Enfer est ici, c'est l'histoire du mec qui était un peu le coup, entre guillemets, le bouc émissaire, qui essaie de s'en sortir. C'est une série judiciaire et aussi politique. Parce qu'on a vraiment ce côté d'intrigue politique au milieu.
Tu commences à mener une enquête, quoi. Hein, et surtout, il y a toutes les factions en jeu qui vont justement essayer de tirer un petit peu pour éviter de trop se prendre de remous face à l'affaire en question, parce que du coup, là, les révélations que fait justement Josh Logan...
Joshua Logan, donc l'accusé à tort.
On a
vraiment du mal avec les noms. Hein,
non, c'est Joshua Logan, je l'ai, arrête. Oh merde, pour une fois que j'ai un nom... Oh, j'en avais deux, j'avais David Nouveau et j'avais Joshua Logan.
D'accord, ça va.
Tiens, et puis continue la chronique, va.
Et c'est sympa.
Ouais.
Au niveau du dessin, qu'as-tu dit comme mot ?
Réaliste.
J'ai mis pastel. Je trouve qu'il y a un côté pastel dans le trait. Enfin, doux, plus que pastel. J'aurais dû mettre doux, même, plutôt comme mot.
Ouais.
On est dans du réaliste, mais les couleurs sont douces. Moi, j'aime beaucoup le jeu de couleurs qui est utilisé dedans, en fait. On est pris dedans, c'est agréable, de bonnes ambiances. Un style assez réaliste, mais pas trop. Ça leur permet d'exagérer un peu certaines expressions des personnages.
Ouais. Moi, je suis dit, c'était...
Scénario.
Polar.
Elliptique.
Pourquoi elliptique ?
C'est pas dans un sens négatif, hein, elliptique, mais j'ai trouvé que quelque chose qui marque beaucoup cette bande dessinée, c'est qu'elle nous raconte quand même plusieurs années. On a des grosses ellipses. Je trouve que c'est très très bien raconté dans le sens où chaque chapitre de la BD nous raconte une période de temps très courte, qui va être une journée ou quelques heures, avec beaucoup d'informations, un passage d'une séquence à l'autre, c'est-à-dire qu'on va passer de genre un personnage qui est en train de discuter, mais on voit qu'il se passe un truc à la télé, le truc qui se passe à la télé va réavancer dans le scénario derrière, etc. Et puis d'un coup, une coupure, et ça se passe 6 mois après, et il nous remet le même dispositif, où on a plein d'événements, on voit les personnages se croiser, parler via les médias, via les actions qui se passent, et des ellipses très très bien menées. Et on arrive à pas se faire chier, quoi. C'est une enquête judiciaire, je veux dire, il n'y a rien de plus lourd qu'une enquête judiciaire, on n'est pas dans le tribunal, quoi.
T'es pas dans le tribunal, et en plus je trouve que dans cette enquête judiciaire, tu te retrouves avec plein d'interactions avec tous les personnages qui ont tous une épaisseur, même si tu les vois finalement pendant très peu de pages. Que ce soit la femme de Josh, que ce soit son avocat, que ce soit la mère, que ce soit la conseillère de la mère. Tous les personnages ont presque en quelques cases, quoi, ont une vraie épaisseur.
C'est très très bien écrit. Les personnages, l'avocat qui va travailler pour lui, tient la route, le gars qui enquête avec lui, son copain, enfin... Je trouve que c'est une très bonne BD, ça m'a donné très très grandement envie de lire Le Pouvoir des Innocents.
Et de lire la suite aussi, Les Enfants de Jessica.
Je sais pas s'il y a un intégral qui existe.
Bon, je pense qu'il sortira un jour, mais peut-être pas tout de suite par contre.
Voilà, parce que c'est vrai que, voilà, qui est chez un autre éditeur d'ailleurs, hein, Le Pouvoir des Innocents, c'était chez Delcourt.
C'était Delcourt, oui, exactement.
Voilà, avec, juste au niveau technique, il faut savoir que Laurent Hirn, qui était le dessinateur original du Pouvoir des Innocents, ici a fait le storyboard, en fait, tout le découpage technique. Et ils ont fait appel à un autre dessinateur, donc c'est David Nouveau qui dessine. Laurent Hirn, faisant un parallèle, dessine Les Enfants de Jessica, donc la suite. Bref, c'est très sympa, ça donne bien envie. Nous pouvons passer à notre intégrale.
Ah là, c'est du lourd quand même, hein, l'intégrale.
Les aventures de Spirou et Fantasio.
Par Morvan et Munira.
Tom et Jean-Ri avaient fini depuis un moment leur passage sur Spirou et Fantasio par un tome qui avait été très 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 controversé. Machine qui rêve, on en a parlé précédemment.
Ouais.
Moi j'avais bien aimé, mais c'est vrai que c'était plus vraiment du Spirou et Fantasio.
C'était différent.
Voilà.
C'était différent.
Et il se retrouve quelques années après à avoir la lourde charge de reprendre en main Spirou et Fantasio, à sortir des albums régulièrement, parce qu'il fallait qu'il sorte des albums régulièrement, pour alimenter le magazine, et puis pour que la série vive, quoi. À moderniser le personnage et puis à faire oublier Tom et Jean-Ri qui était quand même resté quelques années et qui avait fait de très très bonnes choses.
Ou pas, suivant les avis.
Et il commence rapidement avec un premier tome qui s'appelle Paris sous scène et qui tout de suite va poser, selon moi, les bases
de leur travail.
C'est de l'action, du dynamisme et quelque chose de péchu avec toujours une référence aux histoires passées et un petit peu dommage.
Dommage, D'apostrophe H-O.
Une volonté aussi de reconquérir un public jeune, qui avait, je pense, un peu disparu de Spirou et Fantasio, avec un graphisme hyper dynamique, qui emprunte autant au franco-belge qu'au manga et aux comics, un découpage super chiadé, avec un seul défaut à mon sens, qui revient surtout dans les premiers tomes, c'est une trop grande succession de petites cases qui c'est un peu bordélique parfois. Il est capable de te mettre un nombre de cases par planche assez phénoménal.
Ah oui, je confirme.
Et parfois, ça vient un peu bordélique et ça nuit un peu à la lecture. Alors qu'ils ont réussi à avoir un bon grand nombre de pages. Je crois que les albums font dans les 60 pages, un truc comme ça. Alors que le Spirou tournait à 48, hein, classiquement.
Bah, 48, là pour le premier.
Pour le premier, mais après, ils ont réussi à avoir beaucoup plus de pages. Je sais plus à partir du combien, mais...
Je suis pas sûr quand même. 50, ah si, 50.
Voilà.
56.
Paris sous scène. En gros, le comte de Champignac a eu une super invention pour déplacer l'eau des nuages.
Ouais.
Il se fait enlever par un robot. Spirou et Fantasio vont essayer de le sauver et il se retrouve dans un Paris qui est complètement immergé.
Bah, il devient un petit peu trop d'eau, justement.
On découvre un nouveau personnage qui est... une connaissance du comte de Champignac, qui est derrière tout ça, pour une bonne raison, apparemment. Et puis, on va suivre un peu les aventures des personnages qui se séparent, qui courent dans tous les sens, etc. C'est vraiment un premier tome qui pose des bases, qui prend pas vraiment de risques.
Alors là, ouais. Non, je suis pas d'accord. Déjà, qui pose des bases, oui, parce que du coup, il va quand même créer un passé au comte.
Ouais, il travaille sur le passé du comte. C'est d'ailleurs c'est le truc qu'il a apporté principalement.
Voilà, c'est que le comte a eu une histoire jeune aussi.
Il n'a pas toujours été vieux.
Non. Et aussi avec Zorglob d'ailleurs.
Oui.
Qui sera aussi.
Il leur crée un passé commun. Voilà. Qu'on connaissait vaguement. Hein, on savait qu'ils se connaissaient déjà.
Et puis après toi tu disais donc c'est pas trop. Enfin, il renouvelle pas trop le truc.
Non, je dis qu'il y a pas trop de prise de risque vis-à-vis du scénario. Enfin, quand on compare au tome suivant.
Ah oui, c'est sûr. Mais je trouve que même, parce que là, il y en a combien? Il y en a 4.
Ouais.
Sur les 4 bouquins, moi, je dirais quand même que le moins bon, c'est Paris sous scène.
Oui.
Voilà.
C'est trouver ses marques. Ils cherchent leurs marques. Et ils ont pris. Enfin, déjà, graphiquement, beaucoup de gens n'ont pas aimé ce côté, moi, que je trouvais justement.
Bah, c'est super, c'est nouveau, quoi.
C'est nouveau, c'est jeune, ça changeait.
Bah, c'est moderne. Tout en étant classique, quoi.
Tu as mis quoi comme pour le dessin?
Ben, moderne.
J'ai mis manga.
Ben pour moi, ouais, non, c'est pas
Ce qui est,
manga.
enfin, moi, je dis manga dans le sens où il y a une narration très dynamique, un découpage ultra péchu, des raccourcis de perspective pour bien montrer l'action. On sent une très très grande influence du manga, je trouve, enfin, de tout ce qui est bande dessinée asiatique dedans. Il n'y a pas que ça, mais je trouve que c'est une influence très très forte. Ce que le Spirou, enfin, qu'on voit bien sûr encore plus dans le Spirou à Tokyo, qui est encore plus monté.
Ben ouais, mais enfin pour moi ça reste vraiment, enfin ouais, manga peut-être. Mais bon, c'est vraiment super moderne. Tu retrouves tes personnages, mais ils sont quand même beaucoup plus, ils sont plus péchus, plus dynamiques. Ça, je suis d'accord avec toi. Dans le dessin et aussi dans les actions, quoi.
Ouais, Spirou fait
C'est de
moins
l'action.
potiche.
Ouais, c'est vraiment de l'action.
Spirou fait un peu moins potiche, effectivement, mais là, je pense que c'est l'héritage de Tom et Jerry, hein, qui avait déjà commencé à lui donner un peu plus de personnalité.
Spip retrouve aussi un vrai rôle.
Ouais, toujours faire falloir comique,
Ouais, mais.
mais narrateur surtout. Un petit peu exagéré, je trouve, son côté narrateur dans ce tome-là.
Ouf. Bon. Bon, non,
Bon.
là, je suis pas.
Donc le Paris sous Seine bah, repose toutes les bases de la suite qui va principalement parler des origines, enfin des
De
origines
Rigom
de Pacôme.
et du Z.
Ils poursuivent avec leur tome 48.
L'homme qui ne voulait pas mourir.
Oui.
Et ça, c'est une claque.
Ouais.
Moi, je l'avais pas lu en fait. J'avais passé directement de Paris sous Seine à Spirou à Tokyo, puis aux
Poursuivre
sources du
du
Z.
Z.
Et celui-là, tu me l'as passé donc récemment et je l'ai lu il y a quoi, il y a 10 jours. Et je me suis régalé.
Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là?
Ben, on va visiter la maison de l'oncle de Fantasio, où Zantafio s'est caché.
Alors, la maison de l'oncle de Fantasio, on connaît l'oncle de Fantasio de très 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 longtemps, car c'est dans les premiers Spirou qu'ils en parlaient. Vu que la première apparition de Zantafio.
C'est le gorille à bonne mine, non? Non, c'est pas le
Non,
gorille à
c'est
bonne
avant.
mine,
Dans la première
c'est.
apparition de Zantafio, en fait, il y avait déjà référence de cet oncle commun, vu que c'était une histoire d'héritage. J'ai oublié
C'est la
le.
mauvaise tête, non?
C'est possible, c'est une histoire d'héritage, mais je sais plus c'est lequel. Bon, c'est pas grave. Hein.
Ou la corne de rhinocéros.
Je sais plus, mais c'est un vieux, vieux tome.
Ou à.
C'est peut-être l'héritage. Enfin bon, il y en a un qui s'appelle un truc comme ça.
Vas-y,
Là,
continue,
ouais,
meuble
parce
un
que
peu,
là, je te
vas-y.
vois en train de chercher, t'es en train de. Voilà, tu vois, tu casses le rythme encore. Ah, bravo, hein, ah, bravo.
Mais tu dis des conneries, c'est ma faute. Mais
Ouais.
il n'y a pas de bouquin qui s'appelle L'Héritage.
Ouais, c'est possible. Donc, si vous
Ah, je veux dire,
Fantasio.
tu dis n'importe quoi, c'est ma
Si,
faute.
mais je crois que c'est dans les hors-séries. Enfin, bon.
Ouais, mais c'est bon.
Et donc, bah, ouais, il se retrouve là, et bien que Fantasio va faire un tour dans cette maison, se rencontre qu'il y a son oncle,
Non, qui a, oui,
non,
qui, enfin, qui a un gars.
qui a son cousin, et qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à la baraque. Et en gros, il y a un enchaînement en fait de quiproquos, de course-poursuite, pour savoir ce qui se passe, qui fait quoi. C'est très, très, très complexe.
Bah, c'est très dynamique, c'est une bonne aventure. Moi, ça m'a fait penser à. Ça m'a fait repenser aux Pirates du Silence, tu vois, qui
Ouais.
était pour moi un bouquin qui était vraiment resté, parce que c'était vraiment une aventure, quoi. C'était trépidant. Et ben voilà, j'ai retrouvé ça avec celui-là.
Ouais, là, il voyage beaucoup, il y a très peu de pauses, c'est très dynamique.
Et puis au niveau, toujours au niveau de la mise en page, c'est un gaufrier, voilà, qui est très 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 torturé.
Très
T'as plein,
dense,
ouais,
surtout
plein de
dense.
petites
Bah,
cases.
moi, c'est quelque chose que je regrette un peu. Je trouve que son
Ah.
gaufrier est trop dense.
Mais il est dense, mais en même temps, du coup, il s'est permis d'avoir des phénomènes d'agrandissement, de rétrécissement en fonction des dessins. Et je trouve que c'est intéressant, quoi.
Et surtout, dans ce tome-là, Spirou voyage à nouveau. C'est quelque chose, parce qu'effectivement, même si Spirou est belge, hein, dans Paris sous Seine, il fait un tour à Paris. Bon, c'est pas super du voyage, hein, d'un point de vue dépaysement, mais là, on retrouve le Spirou qui va en Palombie, quoi. Le Spirou qui fait le tour du monde. Et j'ai trouvé ça très réussi, avec toujours cet hommage au vieux Spirou et aux racines de la bande dessinée. Plein de petits clins d'œil qui étaient très très agréables. Un très bon tome et puis des planches assez bluffantes dans le grandiose quand ils vont en faire des tomes.
Une aventure qui est trop bien.
Spirou et Fantasio à Tokyo, tome 49. Alors là, c'est un peu particulier. Je pense que c'est un grand tournant dans la carrière de Morvan. Parce qu'il me semble qu'apparemment, un des premiers voyages de Morvan au Japon, c'était pour. Ce Spirou et Fantasio, du moins c'est ce que laisse entendre le Tamor Série
Z,
voilà, qui raconte un peu. C'est une sorte de petit guide de Tokyo, une sorte de petit compte-rendu du voyage qu'ont fait les auteurs pour travailler dessus. Et je crois que c'est là que Morvan a commencé à se lier vraiment d'amour pour le Japon et à faire quelque chose de très très sympathique, genre par exemple faire un Spirou japonais, que je trouve super original comme idée.
Ouais.
Donc Spirou et Fantasio se retrouvent à Tokyo pour un reportage sur un nouveau parc d'attractions qui se passe à l'ère Edo, qui en gros les ramène dans le Japon médiéval. Et ce qui se passe, c'est qu'ils croisent en gros des méchants yakuza qui essayent d'enlever des mômes.
Des mômes qui ont des pouvoirs magiques.
Ouais, psychiques. Et Spirou et Fantasio, quand ils voient ce genre de choses... Et eh ben forcément, ils rentrent dans l'aventure.
Leur sang ne fait qu'un tour et ils se jettent corps et âme.
On retrouve Itokata, créé par Fournier, il y a très longtemps. Ça m'a fait très plaisir de retrouver les personnages de Fournier. Parce qu'on a tendance à oublier le travail de Fournier sur Spirou et Fantasio. Et pourtant, il a fait de très bonnes choses. C'est un des premiers à avoir vraiment modernisé le personnage d'un point de vue vestimentaire, déjà. Avec son col roulé, son pull à col roulé rouge.
Il fallait bien faire un truc. Hein.
Mmh. Et donc, on a toujours ce côté hommage qui est très très bien fait. Et de l'action trépidante. Alors là, dans le côté manga, ça y va. Donc, hein. Ils en rajoutent des tonnes. On a des mechas, des mômes qui volent. Du Akira, de la référence à Akira, de la référence à tous les trucs psychiques qu'on peut avoir dans tous les sens. Ça tend presque à avoir un nuage magique volé dans un coin.
Le nuage magique, c'était dans le précédent qu'on le voyait.
Ouais. Et surtout, on voit aussi que c'est documenté. C'est là que j'ai remarqué qu'en fait, Morvan fait un truc assez surprenant pour de la BD. Au niveau de ses décors, il joue avec de super grands angles. On a l'impression qu'il a filmé avec une caméra avec un fisheye, donc un très très grand angle qui déforme tous les contours des images, qui donne beaucoup de dynamisme. Et c'est assez impressionnant. Ça rend très très bien. Puis on voit vraiment qu'ils sont allés sur place pour se documenter sur comment ça se passait. Quoi. Il y a plein de clins d'œil sur les différents quartiers, les différentes histoires, etc. C'est encore un numéro avec beaucoup de pages, il me semble.
64, il y en a encore plus que dans le précédent. Ouais.
Ils ont vraiment éclaté le format standard. Et c'est une aventure moi, que j'ai trouvé sympa, même si je trouve qu'ils ont peut-être été un peu trop dans les... dans les références au Japon et au manga derrière. Je dirais qu'ils sont un peu plus intéressés aux personnages à côté qu'à Spirou et Fantasio. C'est l'impression que ça m'a donné.
Ben, ils avaient envie de le faire voyager, je pense. Et du coup, ils sont vraiment intéressés au voyage.
Ouais.
Plus que... C'est une aventure de Spirou et Fantasio dans Tokyo.
Ça reste un très bon tome. Surtout si on a à côté le 49Z. Donc,
ouais, qui est super intéressant.
Où on a tous les quartiers qui sont visités où ils expliquent 2-3 trucs avec des photos des auteurs, des conneries, des montages. Enfin, c'est assez rigolo. Ça donne envie de faire un tour à Tokyo, même si l'actualité récente donne un peu moins envie.
Ça dépend.
Voilà. Et d'ailleurs, je rappelle que Morvan a sorti ils ont sorti un collectif pour aider le Japon. Qui a l'air très très joli avec plein de dessins super. C'est Morvan qui avait lancé ça. Il était sur place, lui. Hein. Pour le tremblement de terre. Donc, je mettrai aussi le lien là-dessus sur le blog. Et on a aussi tout un truc parce qu'en fait, ils ont fait appel à un dessinateur japonais pour dessiner une aventure de Spirou japonais. Et en gros, c'est Spirou qui arrive de Belgique, qui s'installe dans l'hôtel Moustique. Donc, c'est un peu les origines. Il est encore super naïf et niais. Mais l'hôtel là se trouve au Japon. Graphiquement, c'est assez surprenant, mais j'ai trouvé l'idée super sympa. Voilà. Et il y a quelques planches dedans avec les explications sur comment ça fonctionne, etc. Enfin bref, moi, le tome 49Z, je l'avais trouvé très bien foutu et très intéressant.
Et on arrive dernier aux sources du Z, de Spirou, tome 50.
Enfin, tome 50. Là, Morvan s'est fait aider d'Yann. Alors, je ne sais pas s'il s'est fait aider de Yann... parce qu'on lui a imposé ou parce qu'il se lançait dans un scénario trop imposant et que c'est quand même un numéro clé, le numéro 50 d'une série. c'est quand même quelque chose de particulier. Et on retrouve, pour moi, vraiment tout le côté. Tout ce qu'on fait Morvan Minuera dans cet album, avec peut-être le côté historique que peut amener Yann, qui est un auteur qui a quand même beaucoup plus de bouteilles hein, qu'un Morvan. Beaucoup plus de séries à son actif, je suis pas sûr, parce que Morvan, dans le genre, je bouffe des séries au petit-déj, c'est pas mal. Mmh. Bon, en tout cas, plus d'ancienneté. Et puis parce que Yann. Enfin, d'ailleurs, il a bossé hein, sur Spirou, il a fait un Spirou et Fantasio. Comment ? Il a fait un des Spirou et Fantasio de. Tu sais, des numéros spéciaux. Mmh. En tout cas, déjà, je trouve que au niveau du dessin, ça s'agit un peu. Moi, ce que je reprochais au niveau du Gaufrier, ça s'est calmé. Il se passe moins de choses par planche. Il s'étale un peu plus. C'est l'impression que j'ai eue.
Je pense que c'est qu'une impression.
C'est qu'une impression.
Je pense.
Et ensuite, on est vraiment dans un scénario hommage.
Bah, surtout, c'est, enfin, on est dans la suite de ce qui a été fait sur Paris sous Seine.
Ouais.
Suite et fin de ce qui était sur oui. Paris sous Seine.
Il arrive vraiment à clore ce qu'il avait, les histoires qu'il avait créées et les histoires des nouveaux personnages qu'il a mis en place.
Et en même temps, hommage, parce que là, du coup, tu te retrouves avec plein de références. Quoi. Là, du coup, bon, Spirou va faire donc, des balades temporelles pour éviter qu'arrive un événement fâcheux.
En gros, Miss Flanners, l'ami de Zorglub et Pacôme de Champignac, enfin Pacôme Zeb Gézip, je ne me souviens jamais de son nom complet, a un cancer. Il tente donc de la sauver. Et Zorglub, en gros, essaie de forcer la main pour aller dans le passé avec une invention de Champignac pour aller dans le passé et empêcher que ce qui lui a donné le cancer ne se passe. Le truc, c'est qu'il leur faut un objet qui leur permettrait de revenir à cette époque-là. Et donc, Spirou va se retrouver à attraper des objets de ses précédentes aventures.
Et donc là, alors on va citer quand même, hein, le gorille à mot de mine, le directeur des champignons, la mauvaise tête, les quatre aventures de Spirou, la corne de rhinocéros, et les aides comme Zorglub.
Voilà, et donc ils reviennent un peu dans toutes ces histoires-là, parce qu'à chaque fois, Spirou se retrouve dans les coulisses d'une de ses anciennes aventures. On a un côté très Retour vers le futur 2, pour le côté coulisses. Et donc, on a ces hommages avec le nouveau Spirou qui rencontre l'ancien, entre guillemets, hein, qui était beaucoup plus naïf, beaucoup plus jeune, beaucoup plus moins cynique peut-être, un humour un peu moins cynique comme peut l'avoir maintenant le Spirou actuel. C'est un très très bel hommage. Petit truc, c'est que la fin en question, je me suis dit, mais comment vont faire les scénaristes suivants pour prendre la suite? Ils ont trouvé une technique très très simple, ils ont fait comme si elle n'avait pas eu lieu.
Ben oui et non.
Ouais.
Bah, tu peux continuer finalement.
Quoi qu'il en soit, c'est, je trouve, une très bonne conclusion parce que on voit que Morvan et Minuera ont essayé de dynamiter un petit peu Spirou Fantasio tout en conservant ses racines. Je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi. Et c'était vraiment pas évident. Malheureusement, toute, je pense, l'arrière-garde des fans de Spirou Fantasio n'a pas accroché à cette tentative de créer quelque chose de neuf. Avec quelque chose d'ancien. Maintenant, je pense que je vais recommander à Fabien Velman de ne pas écrire d'histoire de Spirou et Fantasio où il y aura deux Spirou dans l'épisode, car il semble que pour les auteurs, en général, ce soit le signe de la fin. Voilà.
Peut-être à éviter, ouais.
Tu as quelque chose à ajouter?
Non, tu as fait une belle chronique bien complète de Spirou et Fantasio. Là, moi, je suis tranquille, je relisais les bouquins. Tu vois.
Voilà. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce run, comme on dit dans les comics. Même si j'apprécie beaucoup celui de Velman pour le moment et que j'ai hâte de lire le prochain qui sort très bientôt.
Ben, je trouve que celui-là, voilà, en fait, a permis peut-être le run de chemin de Velman. Quoi. C'est à la fois un gros coup de jeune qui, du coup, a, je pense, laissé beaucoup plus de liberté aux auteurs suivants.
Oui, en prenant autant de risques dans ce qu'ils ont fait, ça a laissé plus de liberté derrière. C'est probable. C'est probable. Le meilleur du mieux. C'est dur aujourd'hui, hein. On a plein de bonnes choses. Alors,
Ah, j'hésite,
moi j'ai
j'hésite.
choisi.
Ouais.
J'ai choisi. Je mets pas l'intégrale parce qu'il y a tellement de choses dedans, c'est ça et c'est un peu pénible.
Ouais, moi
Ouais,
je dirais moi le viandier.
bah nous sommes tous les deux d'accord. Le Viandier de Paul Pett est une très 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 bonne BD. Je le recommande. Thio le recommande. Il y a plein d'autres choses très très bien dans la sélection d'aujourd'hui.
Bah disons que c'est pour ça que je m'appelle Giovanni, si le dessin avait été waouh, je pense
Ouais.
que je l'aurais mis.
Ouais.
Mais il avait pas tout. Le viandier, il a tout aujourd'hui.
Voilà. Ah, pareil, un enchantement est très très bien, mais. Toi, t'as pas apprécié, mais c'est pas aussi prenant. Je veux dire, moi, je suis resté avec le sourire figé sur le visage après le viandier de Paul Pett.
Et la faim au ventre.
Ouais, j'avais faim. Et ben, on va pouvoir passer à notre online. Et nous allons parler de Facecam.
Blogspot.com. Et en plus, vous savez quoi?
Facecam.blogspot.com.
Vous savez quoi? En plus, j'ai tout vu pour une fois.
Ouais, peut-être pas les derniers.
Ah, si!
Ah ouais?
Si, 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 non, non, attends, j'ai tout vu. Oh!
Facecam, bah, c'est une bande dessinée qui nous raconte tout simplement les aventures d'un homme face à sa webcam, qui est fixée dans son salon.
Et dos à sa femme aussi.
Voilà. Et ses réflexions nombreuses et variées. Et c'est surtout ses délires, ses passages à n'importe quoi. Et ce côté cynique, noir, gore, horrible, odieux.
Glauque aussi.
Le
Enfin,
mec.
un humour comme on les aime, quoi.
Ouais, un humour de gros connard. Et j'ai trouvé que c'était une bonne BD. Le graphisme est très sympa. Il y a un côté très sombre, très noir. Ça m'a fait penser au graphisme de Silence.
Bon, enfin, ça reste quand même très très simpliste, quoi,
Ouais,
parce
mais tu sais, le
que.
graphisme qu'il y a dans Silence de Hino et Mathias Haddad.
Ouais, juste là en face de
Voilà.
nous.
Je crois que c'est Mathias Haddad. Je dis peut-être une connerie. Bon, c'est pas grave. Enfin, ça m'a fait penser un peu à ce graphisme-là. En tout cas, Facecam, c'est très très sympa. Moi, j'ai bien rigolé en le lisant. Il y a des nouveautés régulièrement.
Ça se lit vite, hein, parce qu'elle a
Ça se
pas.
lit vite, oui.
Même si ça fait déjà quand même plus d'un an que ça existe, presque. Enfin, presque non.
Oui, c'est toujours 3-4 cases au niveau des
Ouais,
strips.
j'ai tout lu en peut-être quoi, une grosse demi-heure, c'était fait.
Et les personnages sont tous. Enfin, le héros, donc devant sa webcam, est un con. Sa femme, ou copine, ou je ne sais quoi, est géniale. Elle le remet en place régulièrement de façon très rigolote. Voilà. D'ailleurs, le dernier truc qu'il a donné, c'est comme il était content d'avoir été au Festiblog et d'avoir fait des dédicaces, dans son dernier épisode, il sniffe de la coke sur le cul d'une fille. Tu vois, c'est la classe.
Ça y est, c'est une star.
Voilà, sauf qu'elle fait un prout, la fille, alors il en a plein la gueule. Et voilà, je crois que j'ai bien résumé l'esprit de cette BD. Vous accrocherez pas forcément, mais moi je
C'est
trouve
un humour
ça.
particulier, mais faut aimer.
Je trouve ça rigolo. On va peut-être conclure avec un petit peu de courrier des lecteurs.
Peut-être qu'il pourra attendre la semaine prochaine le courrier, dans 15 jours.
Courrier? Allez, on va faire un petit et puis
Un
on
petit, parce que là, sinon, on va être quand même un peu
reprend.
short
Ouais,
time quand
là on
même.
est super long. Merci à ceux qui ont regardé dans nos bibliothèques.
Ouais, qui nous ont conseillé des trucs, donc ben, on va essayer d'en tenir compte pour les prochains numéros.
Voilà. Il y a
Peut-être
des.
pas le 42, peut-être 43, 44, mais les
On verra.
préparations sont presque déjà faites, donc ça va être
Ouais, parce que là,
compliqué.
on a pris de l'avance dans nos lectures, ce qui est plutôt pas mal. Un grand merci à comment s'appelle-t-il? Ça y est, je retrouve plus son nom, à Monsieur P. Qui nous écoute depuis une dizaine de numéros apparemment et qui a écrit un courrier au magazine Casemate pour parler de nous.
Bon,
Je l'ai.
Casemate, c'est un magazine, c'est impossible de le trouver.
Alors, surtout que le nouveau est sorti entre-temps.
Mais, enfin, non, mais même, attends, on a cherché partout.
Ouais, j'ai pas réussi à le trouver. Mais c'est parce qu'on a eu la nouvelle, ça faisait un moment qu'il était en kiosque et que donc il n'y en avait déjà plus. Donc, merci beaucoup, Monsieur P. Ça fait vachement plaisir. Là, il faut que je commande le casemate en question sur leur site. Parce que, quand même, ça fait un peu vachement plaisir. Et puis, en plus, il paraît que c'est un super bon magazine. Je ne l'ai jamais lu. Je crois qu'on va s'en tenir à ça pour le courrier aujourd'hui. Et puis, on continuera un peu la semaine, dans 15 jours
Dans
pour
15
ça.
jours.
On n'a pas eu de HS le mois dernier, mais c'est parce que j'ai plein, plein, plein de plans pour des HS, mais pas beaucoup de temps ces derniers temps. Je dois avoir 6 ou 7 personnes dans mes stocks de personnes qui seraient intéressantes à parler, et la difficulté étant de prendre rendez-vous. Mais je vous promets qu'on en aura vite un nouveau. J'espère, d'ici la fin du mois, même si c'est pas gagné.
C'est pas gagné.
Voilà. Donc si vous êtes un auteur, que vous nous écoutez, que vous avez plein de temps devant vous et Skype, on peut aussi s'improviser ça à l'arrache, comme on l'avait fait avec Vendry, et ça fait des situations très rigolotes. Merci de nous écouter, on se retrouve dans 15 jours. Bonne lecture, achetez plein de BD et à bientôt. Ciao.
Ciao.
Bienvenue au One A Club, le podcast BD dimensionnel. On recommence.
Désolé. Mais j'ai vu Singlot pour ça, en fait. Ça m'a fait penser que maintenant il y avait des human beatbox.
Faudrait qu'on trouve un frame de beatbox pour ce que passe en intro. Bonjour. Allez, on va se revoir là.
La voix du fond de la caverne.